Karine, c'est pas parce que t'es gestionnaire que tout d'un coup, hey, je n'ai plus besoin de budgeter. Puis c'est comme quand on disait tantôt, c'est pas parce que t'as 18 ans que tout d'un coup, t'es plus TDAH, là, t'sais,
Les Neurodivertissantes, le podcast qui célèbre l'unicité neurodivergente et qui explose les préjugés pour un monde plus inclusif.
Épisode 21.
Et si TDAH voulait dire trop d'idées à l'heure?
Partie 2.
Avec vos animatrices, Solène Métayer, Fran Deloum et Mélissa Saint-Louis. Accrochez-vous, il y a de l'idée à la minute ici.
Allô, allô tout le monde, comment allez-vous? Alors, c'est Mélissa qui vous parle en ce moment avec mes consoeurs neurodivertissantes Solène et Fran. Salut, Média.
Allô.
Allô.
How are you?
Very good,
thank you. How are you?
Fait que, comme promis, on revient à la charge avec TDAH numéro 2, parce qu'on est parti sur trop de sidequests la dernière fois, puis là, ben, c'est passé plein de choses entre les deux, fait que là, on revient, comme promis, aujourd'hui.
J'aime ça, on est mêlés, on a des sidequests, mais on est bien fidèles à notre parole. On revient oui. Un jour.
Fran, veux-tu nous résumer un peu ce qu'on disait la dernière fois?
Mais avec plaisir! Donc, dans le dernier épisode, là, donc dans le fameux « Est-ce que TDAH veut dire trop d'idées à l'heure? », on avait revu un petit peu là, c'est quoi le TDAH, puis comment ça se manifeste au-delà de ce qui est décrit dans le DSM-5. Et on avait discuté beaucoup, bon, ben oui, des défis qui surviennent avec le TDAH, que ce soit au niveau de la régulation émotionnelle, de l'hyperexcitabilité, de l'impulsivité, de l'organisation. Et on avait aussi vu les forces qui venaient avec tout ça, donc que ce soit au niveau de la grande capacité d'expansion conceptuelle, la capacité de pensée divergente, de créativité. On avait bien d'autres, là. Je sais pas si vous en souvenez d'autres, parce que moi...
moins que toi. Mais tu sais, nous autres, on a moins fait nos devoirs que toi. On n'a pas réécouté l'épisode avant d'enregistrer celui-ci. Fait que je me fie un peu sur toi, je t'avoue.
Ah, mais ça me fait plaisir. Non, c'est juste que je suis comme, mon Dieu, pourrait donc que je me souviens de toutes les forces, puis je me souviens plus des défis que des forces, ça fait dur, mon affaire.
Ouais, mais en même temps, on a déjà fait l'épisode, il est enregistré, fait que si notre auditoire veut le réécouter, écoute,
hey, il est disponible. C'est ça, puis c'est un très bon épisode. Les gens l'ont beaucoup apprécié, puis nous, on a adoré le faire. Fait que win-win.
Hey, c'est merveilleux. Fait qu'aujourd'hui, on va parler un peu plus de TDAH au travail, que ce soit dans les opérations, comme gestionnaire, dans les réunions, en télétravail, dans plein de choses comme ça. On va aborder ça gaiement, comme toujours.
Toujours. Puis là, il y a Mélissa avec qui on discutait, qui avait comme le goût de nous exposer une théorie du pourquoi, là, soudainement, les forces neurodivergentes du TDAH deviennent plus en adéquation avec leur environnement, puis pourquoi c'était éloigné. Veux-tu nous exposer cette petite grande histoire, Mélissa?
Oui, avec plaisir. Puis là, juste avant, j'avais un fun fact, parce que j'aime ça faire de l'info-dumping. Puis cool, là, aujourd'hui, je m'amusais à faire l'historique un peu de la neurodiversité depuis... Je suis remontée écoute, jusqu'en 1840. Puis, tu sais, la première fois qu'on a mentionné quelque chose qui ressemblait genre au TDAH, on remonte dans les années 1700, mais en 1902, en fait, ils ont sorti le trouble impulsif hyperkinétique. Fait que ça, c'était le petit nom pré-TDAH.
J'aime ça, hyperkinétique, c'est vraiment extraordinaire.
Ouais! Puis, tu vois, le DSM, là, ce fameux DSM dont on parle la première édition, date de 1957. Et... c'est en... J'arrive avec les dates tout de suite, là. En 2013, qu'on ajoute les critères diagnostiques TDAH pour adultes. Fait que ça, wow, ça veut dire que jusqu'en 2013, ça s'évaporait in thin air dans l'air comme ça, genre « Hey, t'as 10 ans, ton TDAH est parti! »
Wow, magie! Mais comme c'est le cas pour beaucoup de neurodivergences, d'ailleurs.
Mm-hmm. Ouais, c'est ça.
Ça finit à 18 ans, c'est magique.
Ouais, fait que, tu sais, ça remet un peu les choses en perspective aussi, pourquoi, tu sais, c'est plus récent, pourquoi là, on en parle, puis pourquoi, tu sais, là, en ce moment, on parle beaucoup des adultes, puis qu'on a l'impression, tu sais, que c'est... On flotte dans un océan d'informations, parfois contradictoires, mais tu sais, c'est tellement nouveau que... Puis en tout cas, quand j'ai vu que 2013, c'était l'ajout des critères adultes, j'avais envie de partager ça aujourd'hui. Puis oui, la petite histoire, en fait, de la neurodiversité, en fait, c'est qu'il y a des chercheurs, puis je vais vous mettre les liens, là, évidemment, en commentaire dans l'épisode, mais il y a des chercheurs qui se questionnent à savoir, bon, ben est-ce que le TDAH, en fait, c'est vraiment un trouble? Puis là, ben on s'entend qu'on n'aime pas trop ça, de dire que c'est un trouble non plus, puis d'essayer de voir l'aspect moins médical de la chose. Mais avec la quantité, en fait, de gens TDAH qu'il y aurait dans la population, c'est que ça pourrait pas être vraiment autre chose que la descendance génétique d'un certain trait caractéristique des humains, là, jadis. Puis là, il y a des théories qui émergent comme quoi que, tu sais, on serait un peu des chasseurs, cueilleurs de l'homme de... Je sais pas si ça remonterait à Néandertal, peu importe. En tout cas, j'ai pas été checker mes noms de post-dinosaures humains, là. Puis que quand l'humain se serait sédentarisé, puis qu'on aurait commencé à faire de l'agriculture, etc., mais toutes ces forces-là, en fait, seraient comme devenues un peu moins utiles, puis que rendu dans un champ, être un hunter-gatherer, c'est rendu comme plate, puis c'est que là, ça deviendrait plus des défis que des forces, parce que on l'avait vu, le profil étant plus le spiky profile, faisant que les forces puis les faiblesses sont pas nécessairement tous égales. Puis, ils ont fait des recherches, en fait, dans des tribus en Afrique qui étaient nomades, puis ont été trouvés un gène qui était probablement celui du TDAH. En tout cas, bref, c'est fascinant comme histoire. Je veux pas rentrer tout dans les détails, on va vous mettre des liens, puis peut-être qu'on y reviendra dans un autre épisode, mais tout ça pour dire que la théorie étant que ces forces-là peuvent redevenir utiles selon le contexte, tu sais, c'est pas... Puis ça revient à se dire que la situation de handicap, c'est une situation de handicap par rapport à un moment donné ou par rapport à un environnement, une situation. Mm-hmm. Fait que là, de dire, bon, ben OK, on est dans l'économie de savoir, puis on en avait parlé des forces qui allaient être demandées, là, qui avaient été prévues par le World Economic Forum d'ici 2025, puis que, tu sais, ces forces-là demandées des employés faisaient partie généralement des forces de la neurodivergence. Ben, tu sais, là, c'est comme peut-être un retour du balancier pour... en faveur de la neurodiversité, puis moins en faveur de la normativité de l'ensemble des personnes.
Fait que là, c'est de voir comment mon super pouvoir de femme de Cro-Magnon à chasser les shiny papillons peut s'appliquer maintenant au travail.
C'est ça!
Ouais, mais tu vois, il y a un chercheur en autisme, cette fois, Laurent Motron, qui dit quoi, que l'autisme, c'est la prochaine forme d'intelligence, finalement, que... On est la nouvelle forme d'intelligence, et donc c'est celle qui est adaptée au monde du futur. Donc ça rejoint un peu ce que tu disais finalement. Que ça pouvait être la forme d'intelligence qui s'adapte maintenant et qui est devenue une force finalement. Sans dire que c'est l'intelligence du futur, je pense que c'est à peu près prétentieux de dire ça. Mais,
oui, puis je tiens quand même à dire que c'est une théorie qui peut être contestée ou nuancée parce qu'il y a quand même des mouvements, on va dire, plus extrémistes, comme dans tout mouvement, là, dans la neurodiversité, où justement, là, de considérer une forme neurodivergente comme la seule version évoluée de l'intelligence humaine, ben c'est un peu limitant, comme disons, tu sais.
Oui, puis c'est un peu exactement ce qu'on veut pas, finalement.
Exact.
Mais non, ça, je suis pas spécialement d'accord avec cette façon de nommer les choses, là, mais ça rejoint, je trouvais ça intéressant dans le contexte.
Mais voilà. C'est pertinent à ton point, effectivement, c'est ça, de se dire que c'est quand même une autre version, une version qui s'adapte à notre environnement, justement.
Oui, ouais, puis dans ce que j'avais vu aussi, il en parlait, là, je m'en rappelle plus, j'ai pas creusé non plus par rapport à l'autisme, parce que ça sera pour une prochaine fois, mais il disait aussi que certains traits autistes auraient été très utiles jadis aussi pour, tu sais, pour vraiment quand c'était temps de... les personnes qui ont inventé des flèches ou qui étaient comme vraiment comme concentrées à faire la technologie de jadis.
Oui, hey boy, je peux-tu vous dire que moi, là, si je devais construire mon arc puis mes flèches, là, ça aurait été le pire projet du monde. Là. Ça aurait pas été loin. Moi, ça aurait fait fou, hein?
Ouais.
OK, donc...
Revenons à nos moutons.
Mais les moutons, là, c'est quelle force neurodivergente qui les rassemblait bien? On le sait-tu?
Je sais pas, mais moi j'aime les moutons.
Hey, je peux-tu vous dire que j'ai fait l'expérience, moi tu sais, je vous l'ai déjà dit, je montais à cheval pendant des années, puis j'ai été une fois faire du rassemblement de troupeaux. C'est vraiment le fun, by the way, là, même quand tu montes pas à cheval, c'est très très cool. Puis il y avait vraiment une vache qui avait décidé qu'elle, elle collaborait absolument pas au projet, puis elle était connue pour ça, genre les guides, ils disaient « Ah, laisse-le, elle, c'est Marguerite, elle va rattraper tantôt. »
La vache tête de cochon.
C'était une vache en opposition, tu sais. C'était comme la seule. C'était drôle, mais ouais, c'était une belle expérience.
J'adore.
Donc, on disait donc la petite théorie qui était qu'aujourd'hui, les fameuses forces neurodivergentes, oui, ça comporte son lot de défis, le profil neurodivergent. Oui, ça peut nous créer des situations de handicap selon l'environnement dans lequel on évolue. Mais nos forces peuvent aussi nous amener à évoluer différemment dans le monde du travail puis à hautement contribuer à l'intelligence collective, à la cohésion d'équipe, etc.
Tout à fait.
Avant de parler un peu de tout ça, je pense, Mélissa, que tu avais quand même une petite théorie des neurosciences qu'on avait le goût d'utiliser pour tabler ensuite.
Ouais. Ben en fait en neurosciences, c'est quelque chose qui que je trouve super intéressant, puis c'est quelque chose qui est utilisé aussi quand même en coaching, il y a certains coachs qui sont spécialisés là-dedans. Puis en fait, il y a c'est surtout au niveau de la gestion de changement puis de l'apprentissage où ce que on se dit bon ben le cerveau en fait quand il fait face à une menace, le cortex préfrontal il comme décloche face à une menace. Puis il va arrêter d'apprendre ou il va arrêter de fonctionner de façon optimale dans un changement, puis il va comme bloquer. Fait que c'est un, tu sais, vite de même, la caricature, ça ressemble à ça. Puis une des formes de menace qu'on peut vivre en changement organisationnel, c'est le surplus d'informations. Fait que le fait d'être bombardé d'informations, des changements de processus, des ci, ça, des changements de tâches, etc. La surcharge d'informations en soi est perçue comme une menace par le cerveau et fait déclocher le cortex préfrontal et fait empêcher, dans le fond, l'information d'être bien assimilée puis de pouvoir être traitée de façon adéquate. Fait que là, la neuroscience est basée sur la majorité qui est neurotypique, évidemment. Puis là, ben moi, mon cerveau me pose 140 000 questions. Puis là, ben, de me demander, hypothétiquement, comme ça, ben tu sais, je sais pas, moi, quelqu'un de doué ou quelqu'un de neurodivergent ou quelqu'un de TDAH qui jongle une quantité faramineuse d'informations à toutes les 43 secondes et quart. Et comme tout le temps, en surcharge d'informations, est-ce que ça crée un peu... un sentiment de menace, c'est ça qui nous rend le plus résilients. Tu sais, en tout cas, bref, c'est une hypothèse que j'en suis comme ça parce que je me questionne. Puis là, de me dire, bon, ben c'est trop d'informations. Est-ce que justement, ce contexte-là, d'être face à trop d'informations, c'est ça qui fait que des fois, au niveau des fonctions cognitives, on a plus de difficultés? D'où justement le fameux réponse à une menace qui est généralement le fight, flight or freeze, le se sauver, geler ou se battre.
Oui.
Mais là, c'est ça, j'ai le goût de te demander. Moi, apparemment, là, je pense que surcharge d'information, c'est mon état perpétuel, effectivement. C'est ça, de te demander, tu sais, à quel point... Moi, j'ai l'impression que j'ai tout le temps besoin de plus d'informations. Je passe mon temps à en collecter à l'infini. Comme, mm-hmm. plus j'en ai, mieux c'est, plus je peux analyser, plus je peux m'imaginer de scénarios. Donc ça, d'après toi, ça rentre dans quelle catégorie?
Ben, ouais. Tu prends les choses à bras-le-corps, puis tu affrontes la situation, ouais. Puis à l'arrivée, t'en veux plus encore.
C'est ça, je combats le feu par le feu. Tu veux me surcharger, watch out, j'arrive.
C'est sûr.
Ah non, c'est ça. Ben, tu sais, je sais pas, comme je te dis, soit que, tu sais, l'habitude fait que ça rend les personnes plus résilientes ou que, tu sais, face à une... C'est parce que, tu sais, quand on regarde, mettons, au niveau des fonctions exécutives, quand on a de la difficulté à démarrer une tâche comme personne TDAH, souvent, ce qui va arriver, c'est qu'il y a trop d'informations à gérer puis à mettre dans un ordre séquentiel logique à travers le temps pour réaliser la dite tâche.
Mm-hmm.
Mais ça, c'est comme beaucoup d'informations qui, en premier lieu, comme fait qu'on freeze, parce que là, on est comme, on sait pas quoi faire, puis on procrastine, tu sais. Fait que, versus la capacité à avoir toute cette information-là, puis être plus résilient face à un changement, puis généralement, aussi, on est plus résilient au changement. Ça peut jouer des deux côtés. En tout cas, j'ai demandé à des experts, ils savent pas trop quoi me répondre, fait que je lance la question dans l'univers. En me disant qu'on peut tout y cogiter.
Mais je suis en train de me demander, c'est ça, en fait, on pourrait rebaptiser le fight, flight or freeze en surinvestissement, procrastination ou évitement.
Ouais, tellement.
Exact. En plus, c'est en français. Écoute, j'aime tellement ta suggestion.
J'achète.
Depuis tantôt que j'ai le poil qui me hérisse à cause qu'on parle en anglais.
Oh, on s'excuse, Céline, on te fait travailler fort ce soir. Ce soir, ce matin, là, puisqu'on enregistre le soir. Là.
Quand est-ce que vous l'écoutez, finalement, c'est pas grave.
Exactement. De nuit, si ça vous chante, on vous jugera pas. Moi, mon pic de productivité, il est beaucoup trop tôt le matin ou beaucoup trop tard le soir. Fait que faites ce que vous voulez.
Fait que là, justement, cette rebaptisation que j'adore vraiment, t'es un génie, Fran.
Ça
Ben là, on en avait parlé justement dans le dernier épisode avec la procrastination, le fait que souvent, on va attendre la dernière minute pour réaliser la dite tâche quand l'adrénaline puis le cortisol embarquent pour se donner le jump starter, le petit coup de pied.
L'éclair de...
Oui,
l'étincelle.
Mais on a dit qu'on allait parler en thématique. Fait qu'au côté un peu opérationnel, là, moi, je veux faire l'apologie. C'est ça, l'apologie? Non, je sais plus. Bref. Je vais défendre la procrastination, OK?
Parce que... Apologie.
Oh, oui, mais avant que tu la défendes, là, je pense que... Moi, j'aimerais ça revenir avec la définition de la procrastination parce que je pense que c'est important. Et puis j'ai fait exprès, j'allais chercher la définition dans le dictionnaire.
T'es merveilleuse, t'as ça sous les yeux, j'adore.
Celle d'Antidote pour mettre la table. Parce que, tu vois, procrastination, tendance à remettre au lendemain ce que l'on doit faire par paresse, négligence ou manque d'intérêt.
Bon, déjà, je trouve ça très méchant. Triste. Oui.
C'est pas gentil.
Bon, moi, je vote pour qu'on fasse une pétition pour se réapproprier le mot procrastination et je vote aussi pour sa variante procrastination. Parce que la procrastination, c'est ma vie au complet, OK?
AKA Side Quest en quantité industrielle.
Exact. Puis moi, je veux faire la défense de la procrastination parce que opérationnellement parlant, dans mon quotidien professionnel, c'est comme ça que je fonctionne à longueur de journée. Parce qu'il y a deux choses dans la procrastination. Premièrement, pendant que je fais pas la tâche, je suis en train de la mûrir. C'est pas parce que je suis pas en train de la faire devant tes yeux à toi que je suis pas en train de la travailler dans ma tête. Honnêtement, la plupart du temps, quand je fais pas une tâche, c'est justement parce que je suis en surcharge d'informations, je suis en train de traiter la dite information, puis pour moi, il y a deux standards, c'est parfait ou c'est rien. Fait je suis en train de voir comment je peux atteindre le résultat optimal que je veux parce que sinon, je ne le fais pas. Et l'autre option, c'est procrastination. Je suis en train de faire mille et une autres tâches que je ne ferais pas normalement,
oui.
Qui doivent avancer et que me permettent, qui me permettent de remettre à plus tard la tâche pour laquelle je ne me sens pas nécessairement mûre.
Ouais, de la procrastination, ça j'en fais par exemple.
C'est efficace comme moyen. Mon appartement, il n'est jamais aussi propre que quand j'ai un examen à étudier. Là.
J'avoue.
J'étudie pas, OK? Je suis désolée de l'avancer, c'est un problème. Mais pour vrai, moi, ma vaisselle, je la lave dans ce temps-là. Quand... Puis quand il faut que je lave ma vaisselle, check-moi bien, elle est récurée, ma toilette. Hein?
mais tu sais, ce que tu dis est tellement vrai dans le sens que le cerveau s'arrête pas quand t'as un TDA, généralement. Tu sais, à moins que des fois, quand t'es en surcharge ou en trop proche de toaster le cerveau, ça peut finir que la procrastination va être, oui, gober des mouches ou regarder trop longtemps des vidéos sur TikTok ou peu importe. Là. C'est des choses qui peuvent très bien arriver aussi. Mais dans la définition qu'on a dit, tu sais, moi, c'est le mot paresse puis négligence. Qui manque d'intérêt, oui, c'est vrai. Mais
ouais, quand même!
Mais paresse puis négligence, c'est tellement négatif et péjoratif. Puis en fait, c'est que c'est ça le TDAH, c'est que ce n'est pas intentionnel.
Oui.
C'est pas... Ouais. Y a personne qui se lève avec son TDAH le matin et qui va dire « Bon, aujourd'hui, je vais rien faire pour écœurer mon boss ou écœurer mes collègues. Je vais m'assurer qu'ils m'en veillent à mort parce que j'ai pas fait ce que j'avais à faire aujourd'hui. » Personne ne se lève en disant ça.
Faut quand même qu'on se rappelle que c'est la définition du dictionnaire qui donc est basée sur des neurotypiques et donc qui ne s'applique pas forcément à nous, quand même.
Exactement.
Non, évidemment, mais c'est quand même la définition que les gens en ont. Quand... Oui. Puis là, on parle, tu sais, de se dévoiler ou de ne pas se dévoiler, puis on en a parlé pendant le live, mais la perception générale associée à la procrastination, ça risque que c'est ça. Puis surtout quand on parle de diagnostic tardif,
ouais.
C'est l'étiquette qu'on se met ou qu'on se fait mettre, tu sais. Fait que de déconstruire ça aussi, c'est difficile.
Oui, puis je nous ramène à l'épisode précédent sur le TDAH, mais j'avais comme à un moment donné laissé entendre que le sujet me rendait émotive. Puis mm-hmm. c'est encore le cas, tu sais, j'ai comme un peu des flashbacks parce que quand on parle de procrastination, moi, je vois aussi tous les moments où je suis incapable d'avancer parce que justement, je n'arrive pas à garantir le résultat, il me manque trop d'informations, j'arrive pas à faire de choix, je suis en paralysie décisionnelle. Fait que c'est comme une façon de me garder en mouvement, tu sais, c'est une façon de continuer à aller de l'avant plutôt que de faire du surplace qui m'évite d'être confrontée au fait que j'arrive absolument pas à accomplir la tâche en question.
Ouais,
c'est un moyen de survie bien souvent.
Mm-hmm. Puis c'est vrai ce que tu dis dans le sens où la vie, on a envie de la vivre quand on est en mouvement. Il y a personne qui aime ça, stagner. C'est pas un état dans lequel on est fait pour grandir et évoluer, là, la stagnation. Fait que de se sentir en mouvement d'une façon ou de l'autre, puis en étant TDA, justement, c'est que le mouvement est facile à aller chercher à tellement d'endroits différents de par cette créativité-là que ouais, après ça, c'est la gestion des priorités ou la perception dans la gestion des priorités aussi, tu sais, de ouais. La communication, c'est là que ça rentre de façon très importante dans la relation au travail, tu sais, au niveau opérationnel, au niveau de la gestion du quotidien, tu sais, bon, ben, les priorités, c'est quoi, comment est-ce qu'on les établit, puis comment qu'on s'assure que
ouais.
On a toujours une vision commune sur c'est quoi les priorités.
Puis si on se ramène justement, donc on a dit à la sphère opérationnelle, quotidien du travail quand on a un TDAH, ben, la procrastination, c'est un des moyens à, ben, positif ou négatif qui va exister. Mais une autre chose qu'on peut discuter comme stratégie, c'est, on en avait parlé aussi là, dans le dernier épisode, c'était l'enjeu de la dopamine, se créer des sprints parce que le marathon devient difficile. Est-ce qu'on veut parler de ça aussi, mesdames, par rapport
aux tactiques opérationnelles? Oui, certain. Une belle stratégie. Qui me stresse beaucoup, hein. Tu sais, quand t'es de l'autre côté, puis que toi, t'aimerais ça que le deadline soit respecté, tu sais. Puis là, tu vois le deadline, l'échéance arriver, puis là, c'est tough.
Il y a des trucs pour ça, parce que c'est ça, que tu peux pas non plus juste, genre, agir dans la dernière minute, puis amener sur le bord de la catatonie ou de l'apoplexie tes collègues, parce qu'ils vont pas
suivre
au projet. Fait que moi, j'ai des petits trucs pour ça, mais je suis sûre que vous avez... En tout cas, pas me juger, OK? Mais mettons que je veux me créer un deadline personnel, ben je m'empêche d'aller faire pipi, donc j'ai pas fini certaines tâches, OK?
Mais ça, c'est pas bon!
C'est pas bon pour la santé!
Faut pas faire ça!
Je sais, mais c'est un exemple! Mais il y en a d'autres comme ça, je vais me créer, je vais comme me trick moi-même avec des deadlines. Sauf que souvent, je me crois comme pute, tu sais, des fois, je me mets des notifications dans mon agenda en essayant de me faire croire que c'est le vrai deadline, mais je le sais que je me suis menti.
Mm-hmm. Ouais, ça, c'est comme le truc d'avancer l'horloge, puis tu fais comme ça marche pas, je le sais qu'à une heure on avance.
Ben oui, moi, mon auto est tout le temps 5-6 minutes d'avance, là, mais je le sais, je le calcule maintenant. Ça n'a même plus de sens. En bref, ce que je suis en train de vous dire et de vous proposer, c'est que si vous voulez savoir si un truc fonctionne, essayez-le sur moi, puis on verra après, OK? Je vais vous le dire, je vais vous faire la critique.
Ouais, mais ça dépend de l'individu, tu sais, c'est ce qu'on dit tout le temps, que chaque personne est différente.
Bien ça, je fais des blagues.
Tu n'es pas la seule personne, TDAH.
Non, et je ne suis qu'une seule version.
Exactement.
La mienne. Mais ça, toi, dans ton opérationnel?
Ben, je pense que dans l'opérationnel, ce qui est plus dur, puis c'est pourquoi tu parlais de te créer des sprints dans l'opérationnel, tu sais, dans les choix de carrière, des fois, c'est plus facile de trouver des carrières qui correspondent à notre mode de fonctionnement, puis qui est un emploi très opérationnel, ben c'est comme un long marathon, tu sais, ça finit jamais, versus t'as d'autres types de travail ou de carrière qui vont être plus en mode sprint, comme par exemple la consultation. Raison pourquoi j'adore les projets, j'adore la consultation. Il y a un début, il y a une fin. Fait que ça permet de gérer, de un, la charge mentale, parce que quand ton projet il est fini, ben, tu es capable de comme en jeter une partie aux oubliettes, puis repartir à neuf avec un autre projet, versus en opérationnel, ce que tu accumules de l'information perpétuellement. Ça avance, ça arrête d'avancer, ça recule, ça avance un petit peu, ça recule encore plus. Puis là, de voir le temps et de créer des échéances en opérationnel quand tu n'es pas en mode projet, c'est encore plus difficile parce que tout devient baseux. Fait qu'à ce moment-là, je pense que, tu sais, sans que ça soit nécessairement un truc, mais dans la communication puis dans la façon dont on établit la corrélation entre gestionnaire et employé, un employé, justement, qui n'a pas cette notion-là du temps, qui n'a pas cette facilité-là à se mettre des deadlines parce que tout est opérationnel, mais c'est peut-être justement dans... pas de l'imposer, mais d'en proposer un où est-ce qu'il y a une attente externe, une espèce de peer pressure consensuel sur l'atteinte d'objectifs ou de deadline au travail.
Mais c'est ça, moi, un truc qui m'aide aussi, c'est d'être imputable, tu sais. Je dis, je m'engage auprès de certaines personnes et ça, je vais vraiment, vraiment vouloir l'accomplir jusqu'au bout. Fait que ça, c'est un truc qui m'aide énormément au quotidien dans des petites et des plus grandes choses. Puis après, ben, on l'a dit, on parlait des sprints, mais oui, découper en plus petites étapes aussi. Prendre le gros projet.
Par projet.
Ouais, c'est ça, de t'inventer des projets dans quelque chose qui n'est pas un projet à long terme, finalement, mais qui est juste ton continu.
Oui, puis tu sais, ce que tu dis par rapport à... Et puis je l'ai perdu. Tu l'as dit, je voulais rebondir, et puis je l'ai perdu.
C'est normal!
Story of our life!
Ah, Seigneur, c'est terrible, terrible, je l'ai perdu. Ouais, ça va peut-être revenir, ou pas, on ne sait pas.
C'est pas très grave. Mais moi, ça m'a inspiré quelque chose, puis tu vois, le fait que tu as perdu ton idée m'a fait perdre la mienne. C'est contagieux, cette histoire.
C'est comme bailler.
Oh là là, est-ce qu'on passe au suivant?
Ben oui, attends, mais j'allais juste dire, dans l'opérationnel, moi, un truc qui m'aide, puis pour vrai, les gens me perçoivent hyper organisée, OK, mais en fait, je pense que je suis très organisante. dans ma désorganisation, parce que c'est ça où on fonctionnera juste pas people, OK? Fait que je réalise qu'un truc qui fonctionne bien pour moi, c'est de me créer des outils puis de faire des tableaux. Moi, là, je fais des tableaux pour tout, OK? C'est pas compliqué. Fait que opérationnellement parlant, dans mon quotidien professionnel, de me créer des visuels de tout ce qui se passe dans ma tête puis de structurer ce que j'arrive pas à structurer mentalement, à manipuler mentalement, de le mettre sur papier, ça m'aide énormément. Tu sais, les fameuses listes de listes, là, ben c'est l'équivalent en tableau. Vraiment. Mm-hmm.
Oui, puis il y a tellement différentes façons de le faire. Ce que tu dis, ça me rapporte le fait que, par exemple, travailler avec des cartes mentales, c'est souvent très judicieux pour les personnes qui ont justement pas une pensée linéaire, notamment les neurodivergents, de travailler avec des idées qui éclatent dans tous les sens, puis de réussir à voir le lien que chacune de ces idées-là ont entre elles. Ça permet de faire un sens des choses dans leur...
Le risque, c'est que moi, je vais me perdre d'en faire ma carte mentale bien cute. Fait que...
Ah, ben là. Ah, non, ça, je sais pas comment t'es...
Mais on l'a dit, je ne suis qu'une version, fait qu'ignorez-moi, tu sais. Moi, je suis juste pour
moi. Oui, ah, puis ce que je vais dire, c'est ça, c'était dans la façon dont on structure le travail, tu sais, je pense que l'équilibre entre l'autonomie,
ouais,
qui est quand même désirée, recherchée, et ce besoin-là d'avoir un certain soutien à définir comment est-ce qu'on va décortiquer les différentes tâches pour pas justement se ramasser devant une espèce de paralysie du je sais pas par où le pogner, fait que tant qu'à pas le savoir, je vais comme faire autre chose. Fait que, tu sais, ça va être, puis là, je m'excuse, juste le mot anglais, mais patronizing, puis de dire, bon, ben je vais te prendre par la main, t'aider à décortiquer tes tâches en tant que gestionnaire. Là, ça coupe l'autonomie, c'est pas agréable de trouver cette espèce d'équilibre entre les deux, de dire, bon, ben peut-être que c'est dans la communication où est-ce que la personne peut être en mesure de demander, dire, hey, je sais pas trop par où pogner celui-là, peux-tu m'aider à le décortiquer, ou, tu sais, cette communication entre les deux parties, là, je pense que ça, c'est une bonne façon d'éviter la paralysie face à une tâche qu'on sait pas par où la prendre.
Oui, puis là, écoute, je pense pas plus que ça rapporte à ce que tu disais, mais t'as dit quelque chose qui m'a fait penser à ça, là, mais dernièrement, il y a un meme que j'ai vu. Puis je voulais vous partager d'ailleurs, parce que je trouve que ça résume ma vie au complet, là. Je vais vous le traduire en live, là. Mais ce que ça dit, c'est genre, ma malédiction personnelle, c'est de savoir que je fonctionne au mieux dans une structure rigide et une routine stricte, mais que je suis pratiquement incapable d'en établir une et en maintenir une de manière indépendante. Mm-hmm. Et n'oubliez pas ce bonus spécial, détester quand les gens te disent quoi faire.
Oui!
J'étais comme, oh mon Dieu, regarde, hein? C'est exactement ça.
C'est ça, le fameux neurosplaining, là.
Oh, ah oui, tellement.
Puis, tu sais, justement, cette relation-là de s'aider, puis de dire, bon, ben est-ce que tu peux m'aider, par exemple, à décortiquer cet ensemble de tâches-là? Je vois pas trop par où le prendre. C'est pas une façon de demander un truc pour, ben tu devrais le mettre dans ton calendrier, mais tu devrais faire une liste. Non, c'est pas ça. Ce n'est pas ça. Tu sais, le but, après ça, c'est d'aller trouver aussi les motivations intrinsèques pour ne pas avoir besoin de trucs, puis être capable d'avoir ces switches internes qui partent de façon plus automatique. Puis souvent, ce qui arrive au travail, c'est qu'il y a bien des choses qu'on fait, puis on ne sait pas pourquoi qu'on les fait, parce que bureaucratiquement parlant, il faut passer à travers toutes ces choses plates à faire. Puis là, ben je vais comme poker un peu Go Pirate là-dedans, qui font la guerre à la bureaucratie infinie. Mais quand on n'a pas un sens profond de comprendre pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait au travail, c'est difficile d'aller chercher la motivation intrinsèque puis d'être capable de se motiver pour faire les tâches sans tomber en mode fight avec l'adrénaline puis le cortisol pour essayer de finir qu'est-ce qu'on a fini, parce que sinon on va se ramasser dans le trou.
Ah, puis pour vrai, le sens au travail, là, c'est tellement... Je trouve la bataille ultime, là. D'ailleurs, il y a les travaux d'Estelle Morin qui sont super intéressants là-dessus, là. Moi, mm-hmm. C'est vraiment un sujet de passion, là. Parce que la job la plus... on va dire, insignifiante pour moi, si elle fait du sens pour toi, tu vas être investi, tu vas être capable de te sentir aligné et d'être motivé. Mais là, je dérive. Parce que là, j'ai une question quand même piège, tu sais. On parle du fait que c'est bien difficile de se structurer, on dépend beaucoup peut-être d'autres personnes des fois pour nous aider à, tu sais, découper en petits morceaux, tout ça, mais là, les gestionnaires à TDAH, mettons, là, marche-tu ça?
Ben, ça doit marcher, parce que t'en es une.
C'est ce que la rumeur veut.
Mais en même temps, tu sais, on faut pas oublier qu'il y a les TDAH qui ont quand même des forces, tu sais.
Exact.
Ouais. Ils sont quand même excellentes comme gestionnaires, fait que, n'est-ce pas? C'est pas juste des défauts.
Pour passer de l'opérationnel à la gestion, dans les modes généraux qu'on voit dans les organisations d'aujourd'hui, en structure hiérarchique, ben entre les deux, t'as des croûtes à manger, right? Puis les croûtes à manger sont souvent ce qui est le plus difficile pour quelqu'un qui a un TDAH à faire au travail, qui est toutes ces espèces de tâches d'entrée, de gamme dans une organisation où c'est très répétitif, opérationnel. Puis que fait, faire le saut entre ça puis un poste plus de gestion au niveau plus de la création ou de l'innovation, ça crée une espèce de plafond de verre, entre guillemets, qui écrème la quantité de personnes neurodivergentes ou TDAH qui vont se rendre à des postes un peu plus élevés de gestion. Pas toujours, là, je dis pas que c'est une généralité. Je dis que c'est un frein qui peut être mis pour des personnes
neurodivergentes. Oui, puis je pense qu'il y a beaucoup qui va appartenir aussi à l'organisation qu'est-ce qu'elle valorise. C'est moi, j'ose croire, j'ai cru comprendre dans mon ascension, ma grande ascension, que ce qui m'avait permis d'être ciblée pour ce poste-là en gestion, c'était le fait que je ne supportais pas l'inertie, justement, puis que j'avais tout le temps 157 idées, puis que j'étais tout le temps en train d'essayer de vouloir bouleverser tout le monde, puis l'environnement de tout le monde. Fait que ça a eu du bon, mais c'est sûr que je me heurte encore à ce jour à beaucoup d'obstacles organisationnels, puis des fois, d'être gestionnaire avec un profil neurodivergent, c'est pas si simple.
Non, c'est ça, c'est pas si simple, mais ça explique aussi pourquoi il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont neurodivergents qui se lancent à l'encontre parce qu'ils trouvent pas nécessairement leur fit ou leur place ou dans les organisations d'aujourd'hui. Fait que oui, ça peut faire des excellents gestionnaires aussi parce qu'il y en a beaucoup qui partent des business, donc par défaut, ils sont comme gestionnaires de leur business aussi, là.
Ouais, sauf que moi, j'ai pas eu le mémo qu'on est supposé être des beaux entrepreneurs, je vous rappelle. Je suis pas capable de m'organiser. Effectivement, non,
bon, on a déjà été habité, t'es pas forcément
un exemple. C'est dans mon procès aujourd'hui, dans cet épisode-là, c'est bien drôle. Ouais, je suis dans une phase un peu comme ça.
Avec toi.
Auditoire, sachez des fois que mon humour m'aide à, on va dire, coper avec mon manque d'indulgence envers moi-même. Voilà, dévoilement.
Puis en même temps, on revient sur le fait que la neurodivergence se présente de différentes façons chez plusieurs personnes. Puis par exemple, quand on disait la difficulté à organiser, etc., ça ne veut pas dire que tout le monde vit ça. Puis ça ne veut pas dire que quelqu'un qui est gestionnaire ne sera pas capable d'organiser les tâches pour son équipe, loin de là non plus. Fait que c'est pas non plus de faire des généralisations. Puis si je me cite en exemple, peut-être que c'est justement par surcompensation, mais je suis devenue une espèce de bête des processus. J'adore les processus, les documenter, les mapper, aller dans le visio, faire tout ça. La vision, un peu en vol d'oiseau de tout ce qu'il y a à faire, pour moi, c'est facile. Fait que non, c'est pas un défi, mais après ça, de l'orchestrer dans le temps avec des deadlines, des fois, ma notion du temps devient un peu plus floue. Fait que c'est là que je dois être vigilante, je dirais. Mais ça veut, tu sais, comme je disais, il y a plusieurs manifestations, puis plusieurs façons de vivre un TDAH, là.
Mais c'est là aussi où un duo va être vraiment le fun. Tu sais, moi, dans mon duo de gestion, moi, je suis beaucoup dans, justement, dans la vision, la créativité. Je me projette, j'ai mille idées. Mais quand vient le temps de les structurer ou les opérationnaliser, c'est plus difficile. Puis c'est là où c'est super intéressant, parce que je suis dans un duo avec une personne qui est très structurée, très opérationnelle. Et je travaille avec une équipe où j'essaie autant que possible de faire profiter l'équipe de mes forces, mais de valoriser, de profiter des forces d'autres personnes. Je pense à une personne dans mon équipe en particulier. Pour vrai, c'est mon deuxième cerveau. Je lui ai dit, il faudra qu'on te donne une promotion d'assistante cognitive. Là, ça n'a même pas de sens. C'est une chance qu'elle est là parce qu'elle prend tout ce que je dis puis elle transforme en étapes. C'est merveilleux.
Ouais, mais c'est la force de l'équipe, tu sais, d'une personne. Mais que ce soit une personne neurodivergente ou pas, tu sais, c'est toujours un bénéfice d'avoir une équipe autour puis de travailler en synergie avec d'autres.
Oui, puis on va parler d'inclusion et de neuro-inclusion. C'est vraiment cette notion qu'on s'en fout à la limite du profil neurotypique ou neurodivergent. On est en train de dire qu'il y a plusieurs personnes avec différentes forces, différents défis. Puis c'est à partir du moment où ces gens se rejoignent et font un amalgame de leurs forces et défis puis se complètent que l'intelligence collective est à son meilleur. Puis que tout le monde se sent bien aussi parce que les forces de chacun sont mises de l'avant.
Oui, tout à fait. Oui, puis c'est ce qu'on dit aussi ce soir, c'est que, à cet épisode-ci, c'est que chacun est différent. Donc, on n'a pas c'est pas une personne qui va représenter l'ensemble des personnes qui partagent le même diagnostic ou la même confirmation. Donc, il faut vraiment se centrer sur l'individu qui est en face de soi, on le dit souvent, mais on le répète, c'est important.
Oui, puis on n'a absolument pas une vision dichotomique. Tu sais, je faisais la blague de demander si un gestionnaire TDAH, ça se peut, puis sérieusement, oui, tout se peut, moi, à partir du moment où la question est-ce qu'une personne autiste peut ou une personne TDAH peut, puis c'est pas une bonne question, c'est une personne. C'est sûr qu'elle peut, selon ses capacités, ses défis, l'environnement qui va lui être fourni. Donc, je fais cette blague-là, mais je me doute bien que, tu sais, je m'accomplis quand même dans mon travail parce que j'ai des forces qui peuvent être mises à l'avant, justement, donc, puis je me dis, mon équipe semble être satisfaite jusqu'à un certain point.
Oui, puis dans cette espèce de plafond à surpasser au niveau de passer de l'opérationnel à la gestion, ben dans les forces du CDRH, il y en a plusieurs qui permettent justement de passer d'outrepasser ces barrières-là, d'y aller avec la c'est parce que je cherche du mot en français pour faire à Solène.
Oh, t'es fine! J'apprécie!
On prend soin de Solène!
Là, je boque, là, mais c'est parce que là, je voulais dire de la drive, là, mais...
De l'entre-genre.
Non, c'est de...
Non, de l'énergie.
De la force, de la direction.
Ça sera de... la drive, bon. Fait que ouais, la drive, du leadership, la capacité à être très passionnée, la création, ça fait des excellents gestionnaires. Ouais. Ça fait des personnes qui font des leaders extraordinaires dans les circonstances où elles ont une équipe qui sont capables de travailler dans le même sens, là.
Puis, j'ai goût de dire aussi, au-delà du profil neurodivergent, il y a toute notre personnalité. Puis là, moi, je me repars à l'année passée avec mon Nova. Tu vous as déjà parlé de l'outil Nova, mais je voyais que mon outil, mon profil adapté, mon vert, ma tendance à la collaboration était dans le plafond. Puis c'est vrai que quand je suis arrivée avec un mode, je voulais favoriser la cohésion, le consensus. Je voulais vraiment que les gens se sentent bien et valorisés. J'étais vraiment en mode inclusion autant que possible. Et avec le temps, j'ai appris à refaire ressortir cet aspect un peu plus rouge de moi, de dire « Ok, je suis capable d'être dans un aspect un peu plus directif, puis je suis capable d'organiser les gens sans déroger de ma personnalité. » Fait que c'est juste l'exemple, parce que moi, je m'emmène un peu dans mon histoire, mais c'est de dire qu'il y a mon profil neurocognitif, il y a mes forces comme personne, il y a ma personnalité, il y a mes intérêts, il y a mes ressources du moment, il y a toutes ces couches-là qui viennent se superposer qui font que d'une journée à l'autre, ben au travail, une personne neurodivergente va avoir un certain profil, mais à avoir des meilleures et des moins bonnes journées, des journées plus productives que d'autres, puis moins que d'autres.
Mm-hmm.
Puis, je pense que le D dans TDAH, je veux dire, très divertissant, hein, parce que pour vrai, moi, je pense que j'entertain hautement mon équipe avec mes 157 allers-retours à avoir oublié mon idée. Ils sont rendus, ils me le disent. Alors, retourne dans ton bureau, ton idée, elle va revenir. Ils ont raison, la plupart du temps.
Ouais, mais c'est pareil, en réunion tu dois les divertir pas à peu près aussi.
Mais la réunion, je veux en parler parce que quelque chose qui est particulier au profil TDAH, c'est que le cerveau TDAH pour être en écoute a besoin d'être stimulé, contrairement à d'autres profils qui ont besoin d'être vraiment concentrés sur l'écoute et de rien faire d'autre. Fait que moi, les réunions, c'est un moment que j'adore parce que je suis en analyse constante du non-verbal, des mots, de la symbolique des mots que les gens vont utiliser. Ça me stimule vraiment beaucoup. La facilitation me stimule énormément. Donc là, les réunions, personnellement, je trouve tellement que c'est un moment où mon cerveau me donne une force, dans le fond. Cette capacité à être en stimulation pour mieux écouter me semble être la clé pour être capable de vraiment voir « Ah, attends, telle personne, il y a eu tel mouvement dans son non-verbal, je vais aller la chercher. » Puis ça fait vraiment des conversations qui, en tout cas, à moi, m'apparaissent hautement constructives, vraiment intéressantes puis pertinentes.
Oui, tout à fait. Puis forcément, le fait que tu aies besoin de simulation aussi, on le voit quand on te regarde, c'est aussi pas jouer avec ton élastique, c'est de shaker de la patte, c'est plein d'autres façons de te stimuler également. Si je ne l'abuse.
Mais non, tu ne t'abuses point, n'abuses point. Mais ça nous amène à parler peut-être un peu plus du profil TDAH au-delà de moi, là, mais ce que je disais aux filles avant qu'on commence l'enregistrement, c'était que l'année passée, là, mon élastique, j'avais tendance à mettre ma main dans mon dos ou à le contenir. J'allais plus bouger mes orteils dans mes souliers. J'allais plus me mettre sur une chaise qui bascule parce que ça me donnait une raison de bouger qui était externe à moi. Tandis qu'aujourd'hui, je réalise que c'est tellement quelque chose que j'assume plus, puis je me dis, les gens ont même plus l'air de s'en bordrer. Ils vont juste plus le remarquer, à moins qu'on ait l'élastique hors-vol sur quelqu'un. Là, ils le remarquent.
C'est quand même très connu.
Est-ce que c'est déjà arrivé?
Oui, plus d'une fois. C'est déjà revolé dans une assiette à la cafétéria d'HEC. J'étais un peu triste. Et mal à l'aise.
Mais ça va justement avec tous les stéréotypes associés à c'est quoi être un gestionnaire, puis comment est-ce qu'un gestionnaire devrait agir. Puis, par exemple, le fait de fidgeter ou différents manifestations, comportements qu'on peut avoir en étant neurodivergent fait qu'on ne fit pas dans le cadre neuronormatif associé à différentes tâches au travail, puis d'avoir un environnement qui permet d'avoir ces exutoires-là en termes là, du TDAH, de ressortir de l'énergie d'une quelconque façon, soit en pidgetant, soit... tu sais, que ça soit correct. C'est pas parce que t'es gestionnaire que tout d'un coup, hey, je n'ai plus besoin de pidgeter. Puis c'est comme quand on disait tantôt, c'est pas parce que t'as 18 ans que tout d'un coup, t'es plus TDAH, là, tu sais. Il y a pas une passation qui se passe au niveau neurocognitif de, hey, t'as un poste de gestionnaire, ton TDAH, il est parti.
C'est ça, mais
c'est tellement magique.
Comme tu dis, il y a des stéréotypes associés, puis c'est comme si il y avait moins de crédibilité à avoir la bougeotte. Alors que je pense que tu peux être tout aussi crédible que quelqu'un qui est plus ferme ou stoïque à quelque part.
Oui, c'est ça. Puis, tu sais, si on continue un peu aussi avec la gestion ou différentes autres sphères du travail, tu sais, dans les défis du TDAH, quand on parle de la notion d'impulsivité, puis de vitesse, puis de mouvement, comme gestionnaire aussi, des fois, c'est quelque chose qu'il faut s'assurer de calibrer avec son équipe pour pas justement trop craquer son équipe ou trop en demander ou avoir l'impression que, tu sais, personne qui veut un gestionnaire poule pas de tête, là.
Non. Ça peut rester un défi, puis c'est là justement où l'inclusion va donner la force, parce que comme gestionnaire ou comme collègue, à partir du moment où tu es neurodivergent, ou même pas, à partir du moment où tu es humain, okay, faut que tu sois juste conscient que tu as des défis, puis que ce que tu vas faire va peut-être pas être compris par les autres, ou peut-être pas être valorisé par d'autres personnes, puis c'est de prendre le temps de faire une mise à niveau, de faire une traduction à la limite entre tes besoins puis ceux de l'autre personne en face de toi.
Exactement, puis c'est pas parce qu'il y a un lien hiérarchique tel qu'on les conçoit dans les organisations que t'es pas d'humain à humain.
Mm-hmm. Mm-hmm. Exact.
Tout à fait.
Fait qu'on a un épisode qui, moi, il me fait rire cet épisode, il est un petit peu organique, plus organique que d'autres. Vas-y, Solène.
Moi, j'allais ajouter que même Eclipse participe, elle a ronronné tantôt, je sais pas si on l'a entendu, elle a contribué à cet épisode, voilà.
Merci Eclipse. Mais j'allais juste venir, tu sais, là, on a couvert un petit peu, TDAH au travail, le surinvestissement, procrastination ou évitement, l'opérationnel, gestion, réunion, mais il y a aussi un autre défi, là, le télétravail. Je dis défi, mais c'est aussi, on en a parlé souvent, là, c'est aussi un moyen flexible pour plusieurs personnes neurodivergentes et neurotypiques de travailler. Qu'est-ce que vous en pensez, vous deux?
Mélissa, à toi.
Ben, je te dirais, c'est étrange parce que, tu sais, avant d'avoir mon évaluation, mon diagnostic, tout ça, moi, ça fait quoi, 9 ans que je travaille de la maison maintenant? Fait que, tu sais, bien avant la pandémie, là. Mm-hmm. Puis, à un moment donné, je me rendais compte à quel point j'étais comme, j'ai pas à faire 1h30 de route pour aller travailler, 1h30 pour revenir. Puis, j'ai l'impression que je manque de temps tout le temps.
C'est fou.
Puis. Puis, tu sais, je me disais, OK, je peux même pas m'imaginer d'avoir à repasser le pont 2 fois par jour. Là, maintenant, c'est beaucoup moins pire, là. Mais juste pour dire que c'est pas parce qu'on est à la maison que tout d'un coup, comme on a plus de temps quand tu n'as aucune notion du temps, avec cette fameuse vision aveugle de ce qu'est le temps. Fait que ce qui arrivait comme constat, c'était que même si tu es à la maison, c'est facile de devenir dans cette espèce de vase-là où ce que tout s'interrelie. Là, on en parlait parce que ça ferait probablement un autre épisode de voir comment est-ce que tout se juxtapose, le travail, la vie personnelle, les amis, le temps pour soi, pour prendre soin de ça aussi. Fait que le fait de rajouter des transitions dans la journée, des transitions qui sont intentionnelles, permet d'avoir une meilleure notion du temps, puis de mieux contrôler, d'avoir un meilleur aspect de contrôle sur sa vie. Parce que souvent, le manque de contrôle va avoir cet autre effet pervers. Là, surtout les TDAH, qui est j'allais juste en anglais encore, le revenge sleep procrastination. En français, ce serait la procrastination de revanche du sommeil.
Wow!
qui vient d'un mot japonais, en fait. Mais le fait que quand tu as l'impression que ta journée a fil puis que tu n'as aucun contrôle sur tout ce qui se passe, puis c'est encore pire quand tu as des enfants après ça, que tu essaies d'écrémer chaque seconde jusqu'à temps que tu sois plus capable de tenir debout avant d'aller te coucher, puis que ça crée cette espèce de cercle vicieux-là de « je suis trop fatiguée ». Fait que, mais en ayant des transitions beaucoup plus claires dans la journée, ça permet d'avoir une meilleure emprise sur son horaire puis sur son utilisation de son temps.
Tu sais, c'est très valide en télétravail où ton espace de vie et ton espace de bureau sont le même endroit, mais je pense qu'il faut s'en créer aussi au bureau, tu sais, vraiment, quand tu travailles en organisation, que ce soit des petites routines par rapport à aller manger, te ressourcer, de créer justement des temps, c'est absolument essentiel. Solène?
Mais là, quand on est en flow, comment est-ce qu'on vous faites pour vous savoir que le temps vient de passer? C'est bien beau une routine, mais si vous êtes parti dans votre trip de chercher quelque chose ou de faire quelque chose, puis que là, vous voyez pas le temps passer, est-ce que vous mettez des alarmes? Comment ça marche?
Bon, je suis comme pas une très bonne personne parce que quand je rédigeais mon mémoire, il fallait qu'on m'enlève mon ordinateur de devant moi pour que j'aille me coucher. Mais effectivement, moi, ce qui m'aide vraiment beaucoup, les outils électroniques, on est à une ère où on a tellement d'outils et c'est beaucoup moins agressant qu'un time timer qui sonne, OK? Donc, oui, d'avoir des notifications, de se mettre des petits rappels qui sonnent. Moi, ce que j'utilise aussi beaucoup, c'est des courriels que je préprogramme aux autres ou à moi-même. Tu sais, ça aide énormément. Fait que c'est pas évident. Je pense que de l'aide externe aide parce que le flow, c'est bien, mais on l'a déjà dit, ça peut verser dans un autre extrême, là, cet hyper-focus-là aussi. Je sais pas si j'ai répondu à ta question, Solène.
Oui, tout à fait.
OK, merveilleux.
Mon point était, comment est-ce qu'on fait quand on n'a pas de notion du temps, justement?
Ah, c'est ça. On se donne des aides externes ou on dit aux gens, tu sais, moi, un truc que j'ai trouvé avec mon supérieur dernièrement, vu que quand je travaille de soir, ben, je prends pas le temps d'aller manger parce que je suis concentrée puis qu'il y a personne qui va manger pour me dire « viens manger avec moi ». Fait que c'est rendu que j'arrive un peu plus tôt pour qu'il m'emmène manger, pour qu'après je puisse faire mon corps sans manger, mais j'aurais pris une pause ressourçante quelque part dans mon corps de travail, c'est fou pareil.
Cute.
Puis pour finir, pour le télétravail, là, moi je voulais juste dire, mon expérience a été tellement que j'avais l'impression d'avoir 157 angles morts que j'avais pas, puis là je voulais tout surcompenser. Puis pour vrai, quand il arrivait quelque chose, parce que moi j'avais été mise en télétravail comme obligatoire là, à cause de mon état de santé en début de pandémie, là, juste pour le contexte, fait que j'étais un peu en réaction. Mais quand il arrivait quelque chose puis que je le savais pas, j'étais comme fâchée contre moi. J'étais fâchée de pas le savoir. J'étais fâchée de pas savoir ce qui se passait à l'extérieur de la tablette, comme de mon écran. C'était fou, ouais, ça m'a vraiment pris. Ouais, mais ça m'a pris un temps pour comprendre que hey, je peux pas savoir ce que je vois pas. Fait que voilà. Ça, c'était ma petite expérience de télétravail, mais ça a permis que je me suis vraiment investie beaucoup. Puis les gens, le commentaire que j'ai eu en bout de ligne, c'est peut-être que mon surinvestissement a quand même porté fruit, parce qu'à un moment donné, j'ai trouvé un équilibre, mais ce que les gens m'ont dit, c'est qu'on avait l'impression que t'étais là. On n'avait pas l'impression que t'étais à distance.
Oh! C'est cool, ça!
C'est ça. Je sais pas pourquoi je voulais finir en disant ça, mais je vous le dis pareil.
Oh, mais c'est... on aime tes partages!
Oui!
Merci!
Puis avec ce que t'apportes aussi, ça me fait penser, souvent, ce qui est vu ou communiqué par rapport au TDAH, c'est que quand t'es, surtout en télétravail, t'as l'impression que t'as besoin d'être... responsable de chaque heure que tu fais. T'sais, c'est comme, tu sais, des fois au bureau, hein, tu vas parler avec un collègue, t'arrives, tu vas prendre un café. Puis, mm-hmm. On dirait que quand t'es en télétravail, d'un coup, c'est comme, il faut que j'arrête mon timer parce que je vais m'en faire une brassée. Ou que... Fait que là, la pression de squeezer l'énergie de chacune des heures investies au travail ajoute quand même du. Tu sais, c'est que c'est le même nombre d'heures, mais en concentré, si tu veux. Puis ça, au niveau de l'énergie, ça peut être assez taxant. Fait que de se dire que l'humain général n'est pas productif à 100% de son temps.
Non.
C'est normal.
Exact. Moi, je me souviens qu'en télétravail, c'était ça. Genre, dès que j'avais l'impression que j'avais fait tous mes courriels, j'étais en attente de réponse, j'avais déjà créé 48 tableaux bien cute, là, puis j'avais vraiment plus de façon de m'occuper, mettons. Je me disais, OK, là, si t'étais au bureau, là, qu'est-ce que tu ferais en ce moment? Ben, tirer avec l'équipe, tirer avec la clientèle. Parce que j'avais absolument pas accès. Fait qu'il fallait comme que je me rende compte que dans les contacts informels que j'avais au bureau, ben là, je les perdais, puis mais ces contacts-là, ils étaient vraiment précieux, mais je pouvais pas les recréer à la maison. Il n'y avait pas de moyen de le faire, puis c'était correct, tu sais.
C'est ça, fait que revoir ses attentes, puis comprendre aussi... Tu sais, la gestion des résultats, on en avait parlé hein, dans le petit guide de la neuro-inclusion. Le temps que ça prend pour atteindre un résultat, la façon dont tu vas t'y prendre pour atteindre ton résultat, tant que le résultat est là, c'est ça qui devrait compter, surtout en télétravail, parce que mille et une choses peuvent se produire, là.
Exactement.
Oui, tout à fait.
Puis ça nous fait conclure sur l'inclusion, qui était de dire qu'à un moment donné, que le résultat est atteint, si chacun prend le chemin qu'il veut y prendre pour y aller, c'est bien correct, tout simplement.
Oui, vive la gestion des résultats.
Sur ce, je vous propose qu'on conclue cet épisode un peu organique, un peu... Écoute, il était plein de surprises. Je savais comme pas où on allait à chaque fois, puis j'ai bien aimé ça.
Bon, fait que pour rapper, parce que c'est ça, on disait que c'était quand même assez organique ce qu'on a fait comme discussion. Fait que les grands constats sont que chaque personne est différente, chaque situation est différente, que si on se retrouve par rapport à une situation un peu plus difficile, des fois c'est le contexte, des fois c'est les relations qui font que c'est plus difficile, puis qu'il y a différents outils là, qui s'offrent, parce qu'on voulait pas, dans le fond, vous laisser sur une espèce de fin, parce que le but, c'est pas de donner des trucs, parce que les trucs, ça marche pas. Comme on sait, ça prend un peu plus de viande autour de là, c'est de dire que, bon, ben On a, oui, des trucs qui peuvent donner certains points de repère ou certains points de départ, mais après ça, ça prend quand même une pensée un peu plus réflexive sur, bon, mais qu'est-ce que je peux mettre en place pour avoir une motivation plus intrinsèque par rapport à X ou Y? Comment est-ce que je peux avoir une logistique par rapport à tout ça puis avoir une automatisation qui est plus holistique là, dans l'ensemble de ces tâches pour amoindrir toutes ces caractéristiques, tous ces symptômes-là du TDAH. Fait que d'où, justement, le coaching va aider à aller chercher ça, où il y a plusieurs références et lectures. Là, l'autre fois, justement, pendant le live, là, Solène, tu parlais du CEMO, qui a beaucoup de soutien aussi pour les personnes en organisation. Fait que, bref, c'est pour ça qu'on fait l'épisode, c'est pour vous donner des outils, mais aussi pour vous donner des façons de pousser de la réflexion plus loin, puis de pas s'arrêter à ce neurosplaining-là qu'on vit quotidiennement.
Je veux juste finir avec une anecdote, pour que tu m'as fait penser, quand on a fait le live, il y a une de nos auditrices qui a fait un lapsus qui, moi, pourrait m'a marqué, là. On parlait justement le fait de télétravail, que ça permettait certaines libertés, puis en voulant écrire « ça permet de travailler en mou », elle a écrit « ça permet de travailler en moi ». Puis moi, pour vrai, ça m'a tellement marqué dans l'authenticité. Puis je veux juste la ramener, je trouve que c'est comme le parfait final pour cet épisode. Je veux travailler en moi.
Oui. C'est ça qu'il faut. C'est parfait. Sauver la réflexion et travailler en soi, exact. En nous. Vive le mot.
Vive le mot. Sur ce, bonne semaine.
Bonne semaine.
Bye. Bonne semaine à tout le monde.
Vous avez apprécié l'épisode? Vos animatrices ont eu du fun à vous le préparer et l'enregistrer. Pour les encourager, n'hésitez pas à parler du podcast à votre réseau, vos amis, vos collègues. Et si vous avez envie d'échanger, vous pouvez les trouver facilement sur la page Les Neurodivertissantes sur LinkedIn et sur Facebook.